Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour à tous, ici Aurélie pour RDIWA, à l'écoute sur le 107.5 FM et sur le site www.rdwa.fr. Je suis avec Marie-Claude Jourdan. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour Aurélie et bonjour à tous.
Donc vous êtes cadre de santé aux soins palliatifs et à l'équipe mobile du centre hospitalier de Cré et vous avez un événement à nous annoncer.
Oui, je vais vous parler de l'anniversaire des 20 ans de l'unité de soins palliatifs, puisque les premiers patients ont été accueillis en décembre 1992.
Comment cette unité de soins palliatifs naît-elle ?
Alors l'unité naît à l'occasion, on va dire, d'un autre événement un peu plus triste, c'est-à-dire que nous devons fermer notre maternité. L'hôpital de Cré doit fermer sa maternité et le fait en mai 92. Et comme l'hôpital de Cré accueille quand même une grande population de gens âgés, il y a un service de médecine générale et un service de chirurgie qui était très polyvalent. En fait, devant ces malades âgés et ces malades qui pouvaient être porteurs de cancer, la question du traitement de la douleur et de mieux accompagner les personnes s'est posée et a provoqué un élan. À l'époque, il y avait une cadre infirmière, Madame Bourde, qui préparait un DU de soins palliatifs, un diplôme universitaire, et puis des médecins vacataires de l'hôpital qui sont aussi des médecins libéraux. Et puis, on a eu la chance d'avoir une direction qui a bien suivi et qui s'est beaucoup mobilisée, Madame Breton, et l'unité a pu ouvrir en décembre 92.
Donc, c'est vraiment pour répondre à un besoin réel.
Tout à fait. Un besoin de la population. On avait eu de la chance aussi, puisque c'était dans le cadre des structures innovantes au niveau des financements. Et l'unité a pu ouvrir dans l'ancien bâtiment, enfin dans les anciennes chambres de la maternité. Et c'est une unité de 5 lits.
Vous parlez au présent, donc aujourd'hui, 5 lits seulement, enfin seulement.
Alors voilà, toujours 5 lits, avec par contre un projet de 8 lits pour l'hôpital neuf. Dès qu'on déménagera sur l'hôpital neuf à Cré, nous aurons 8 lits. Donc ça sera peut-être une façon de pouvoir mieux répondre aux demandes de la population aussi en termes d'accompagnement directement de fin de vie, mais peut-être aussi de prise en charge des symptômes un peu plus précoces. On espère qu'on pourra mieux répondre, voilà. Et anticiper davantage. Parce que vraiment, là, aujourd'hui, ce qu'on voudrait faire passer comme message, c'est que les soins palliatifs, c'est pas la toute fin de vie et vraiment que la mort. C'est vraiment une démarche d'accompagnement et de prise en charge de certains symptômes qu'on peut vraiment faire en amont. La prise en charge palliative n'est pas que la fin de la vie. C'est vraiment quelque chose une prise en charge qui peut s'adresser aux personnes âgées, à des personnes qui ont des maladies graves et évolutives avec toutes les questions, on va dire, éthiques. La question de la nourriture, la question de la respiration, la question peut-être pour certaines pathologies cancéreuses, poursuivre ou ne pas poursuivre un traitement. Toutes ces questions-là sont vraiment essentielles et c'est important de pouvoir les poser et de prendre le temps de la réflexion pour que ça n'arrive pas dans l'urgence, et parce que ça se mature ces questions-là. C'est aussi les questions des directives anticipées, par exemple. C'est-à-dire que la personne va dire, me sachant atteinte de telle pathologie, je sais que les risques sont tels et tels, je veux bien ou je ne veux pas de tel traitement. Voilà, c'est aussi poser des limites pour ne pas être victime d'une certaine forme d'acharnement thérapeutique. Aujourd'hui, l'obstination déraisonnable.
Ça a changé de nom alors.
En fait, on peut imaginer que l'obstination déraisonnable, c'est quelque chose qui peut s'analyser en cours de traitement. Alors que l'acharnement thérapeutique, c'est peut-être plus quelque chose dont on se disait après coup, ben finalement, peut-être qu'on a été trop loin et que c'était pas confortable et qu'on a provoqué plus de souffrance et d'inconfort que de réels bienfaits pour la personne. C'est vraiment peser le bénéfice et le risque de certains soins, de certains traitements, de certains gestes, même dans le quotidien.
Voilà. Y a-t-il un suivi post-séjournal ? Alors, je ne sais pas si ça se dit comme ça.
Façon, c'est-à-dire qu'on peut avoir pour les patients et pour les familles, on va dire. On peut, pour des patients, parce qu'ils peuvent venir en séjour, on va dire, d'adaptation de traitement, en séjour de répit pour des familles qui sont fatiguées, qui ont besoin de faire un petit break. Donc, en fait, on accueille les patients, on fait on réajuste les traitements ou on les maintient. Et puis la famille, pendant ce temps, peut un petit peu souffler, se ressaisir et pouvoir continuer l'accompagnement à la maison ou le suivi des personnes quand il s'agit de choses difficiles ou et longues sur la durée, hein, des maladies de Parkinson, des maladies, pourquoi pas à la limite, des maladies d'Alzheimer, les maladies neurologiques comme les maladies sclérose latérale amyotrophique, qui sont vraiment des maladies sur le long cours et très compliquées pour le malade et pour les familles. Donc ce suivi, il se fait éventuellement par l'équipe mobile qui peut se déplacer au domicile ou dans les établissements où sont parties ces personnes. Si par exemple ils partent en hébergement pour des personnes âgées, on peut tout à fait continuer à aller les voir ponctuellement avec l'accord des équipes en place. Et puis quand, par contre, ça s'est terminé par un décès, on peut continuer à suivre la famille. C'est-à-dire que les membres de la famille peuvent venir rencontrer l'équipe ou bien rencontrer la psychologue ou refaire le point avec le médecin. Oui, bien sûr que le service, ça, on va dire que la prise en charge ne s'arrête pas complètement au moment du décès. Voilà. On peut proposer un suivi, tant dans le cadre de l'équipe mobile que dans le cadre de l'unité.
Alors, pouvez-vous me parler de cette équipe mobile ?
Alors, l'équipe mobile, c'est une équipe qui a été créée en 2004. Donc, le premier médecin qui est arrivé en 92 à l'ouverture de l'unité, c'était Madame le docteur Dilmatin, qui a beaucoup fait au niveau de la formation, du compagnonnage auprès des médecins qui l'interpellaient pour les traitements de la douleur, auprès des infirmières aussi qui étaient en difficulté. Et finalement, ce temps qu'elle passait à former, informer, soutenir, il fallait le valoriser et demander du personnel en plus pour pouvoir continuer à le faire, parce que c'était vraiment primordial. Tout comme les informations grand public avec des conférences ou des animations de débats. Donc petit à petit, au bout de plusieurs années, cette équipe mobilisable est apparue. On a eu des financements donc qui consistent à financer du temps médical, du temps infirmier, du temps psychologue et du temps de secrétariat. Donc c'est toujours c'est le docteur Serveto qui a succédé à Madame Dilmatin, qui est maintenant à la retraite. Donc Monsieur Serveto est médecin de l'unité et de l'équipe mobile. Donc il suit les patients de l'unité et puis il se déplace au domicile ou dans les établissements. Ils font appel à lui. Avec les infirmières, il y a aussi une psychologue à temps partiel qui peut se déplacer au domicile pour permettre à des familles de mieux vivre, on va dire, ou de moins mal vivre leur maladie ou l'accompagnement de leurs proches, puis du temps de secrétariat, voilà. Et puis moi-même, qui suis à temps constant, on va dire, je suis plus dans la coordination de l'équipe infirmière de l'équipe mobile. Pour l'unité, il y a aussi des infirmiers, des aides-soignants qui travaillent en binôme. Il y a toujours une équipe composée d'une infirmière et d'un aide-soignant, le matin, l'après-midi et la nuit. Et puis on accueille des étudiants infirmiers. Et on va dire une psychologue aussi à temps partiel sur l'unité, des médecins vacataires ou remplaçants quand M. Serveto est en congé. Et on va dire que l'équipe est complétée par l'équipe des bénévoles de l'association ACT en Val-de-Drôme, qui intervient aussi sur le DIWA, qui sont des bénévoles d'accompagnement formés, motivés, volontaires, et qui interviennent en complémentarité pour l'accompagnement, qui représentent la société civile auprès des malades, auprès des grands âgés, auprès des familles. Témoigner en fait que la maladie n'est pas confinée à l'hôpital et que eux-mêmes sont solidaires de ces grands malades ou de ces grands âgés. Oui, je précise juste pour les bénévoles et même l'unité, on est bien dans le cadre de la laïcité. Ça, c'est important, hein, pas de prosélytisme. L'équipe, on va dire que les équipes sont alors complétées aussi par des intervenants plus ponctuels, donc par exemple l'assistant social, la diététicienne, un ergothérapeute, non, on n'a pas, mais on peut rencontrer ce métier dans certaines unités. On a une socio-esthéticienne aussi qui intervient en lien avec la Ligue contre le cancer, ponctuellement, elle fait des vacations, et puis les bénévoles, voilà. Et l'aumônier, bien sûr, on a une équipe d'aumônerie dans les hôpitaux qui est complémentaire, mais qui n'est voilà, mais qui a par contre une étiquette, on va dire, d'aumônerie catholique, alors que les bénévoles d'accompagnement sont laïcs. Ils sont soumis au secret entre guillemets professionnel, enfin en tout cas à la confidentialité.
Vous rencontrez quand même des maladies et des personnes particulièrement touchées. Est-ce une vocation que de travailler dans une unité de soins palliatifs ?
Alors, on peut pas dire vocation, parce que la vocation, on aurait une idée de religieux, donc c'est pas ça. Par contre, c'est vrai qu'on demande à parce que le personnel soit volontaire, c'est souhaité, ou en tout cas, si ce n'est pas des volontaires, parce que par hasard, il y a un poste qui se libère et une infirmière qui présente sa candidature, ben, on lui dit d'essayer, on lui permet d'essayer et puis de dire oui ou non après. Voilà, en général, ça répond quand même à des projets professionnels et à des idéaux professionnels qui sont quand même forts, de voir le temps, de pouvoir prendre, de respecter le rythme du patient dans son sommeil, par exemple. Il n'a pas envie de manger à midi, ben, il peut manger à 14h. On a des façons d'accommoder le rythme du service au rythme du patient. La formation, c'est important parce que bon, le bon cœur ne suffit pas. Il y a quand même des gestes techniques, il y a des connaissances à avoir pour les traitements de la douleur, les symptômes, l'accompagnement relationnel du malade et des familles. Tout ça, ça ne s'improvise pas. Il y a une ouverture d'esprit, j'ai envie de dire une ouverture professionnelle, mais ça se complète par de la formation, bien sûr.
Da maminka, ti kupi mangisha lionishka, mi vidjama padalonene, padaliu salovushki. Zapigai kadiat kaloshe, sirayu idikas matuyu, yom payediem, tu derevniu, dievushku za sfatayem. Dai, 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 yom payediem, tu derevniu, dievushku za sfatayem. Anda sera ya la shataka, anavisi urromane nie biji, cerna brovi, cigani onak na duše maje leži. Daj, naj, 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 cerna brovi, cigani onak na duše maje leži. Opa!
Avez-vous été touché par les regroupements de territoires ?
Alors, on est touché, mais dans le sens où on a à ouvrir des partenariats. Donc, on doit travailler davantage avec l'équipe de Valence. Donc, Valence a ouvert aussi une unité qui s'agrandit, là, aussi, dans cette année. Donc, on a tout intérêt à travailler ensemble, parce qu'on peut avoir des... Eux peuvent recevoir des demandes de patients du Crétois ou du Diois, et du coup, ben, peut-être qu'une hospitalisation à Cré est plus pertinente qu'à Valence au niveau des kilométrages pour les familles. Non, on va dire qu'on peut bénéficier quand même de cette loi ou de cette réforme, dans le sens où, malgré tout, on a la chance d'avoir un hôpital qui se construit, ce qui est très rare en France aujourd'hui, et qu'on peut augmenter notre capacité de lit.
Admettons, l'hôpital de Die ferme. Pensez-vous pouvoir assurer le suivi médical des Diois en besoin ?
J'espère bien que l'hôpital de Die ne va pas fermer. Après, la loi de 99, elle dit que tout patient où qu'il se trouve doit pouvoir bénéficier de soins palliatifs. Donc, ça veut dire aussi que s'il devait y avoir des changements à l'hôpital de Die, je ne pense pas que la... De toute façon, l'unité de Cré, avec Saint-Cly, ne peut pas absorber tous les patients de Drôme-Ardèche, puisqu'elle a été seule pendant des années. Aujourd'hui, il y a des unités qui s'ouvrent un peu ailleurs, des lits dédiés. Je pense qu'il faudrait vraiment favoriser pour que le service de médecine de Die, par exemple, puisse accueillir encore les patients, parce que quelqu'un de Lucan-Diois venir à Cré, c'est quand même très très loin. Et pour l'accompagnement des familles, pour que les familles puissent accompagner leurs malades, il faut quand même que ce soit viable au niveau de la fatigue, du déplacement et tout ça. Donc ça serait vraiment dommage. là, l'équipe mobile intervient pas mal sur le divan, mais on sait que c'est difficile aussi. Hein. Après, les médecins libéraux doivent se former aussi pour mieux accompagner. Je pense qu'il faudrait mettre des structures en place, peut-être davantage de temps médical ou une réponse téléphonique. Enfin, il y a sûrement des choses à inventer si ce scénario un peu catastrophe devait se produire. J'espère pas. Après, il y a vraiment des choses à développer, c'est les permanences de nuit, c'est garder des infirmiers libéraux sur le terrain, c'est faire en sorte que les aides à domicile puissent aller partout, même dans les territoires un peu plus lointains, mais on sait que c'est compliqué, les kilométrages. Hein. Nous, on a eu des situations de prise en charge de fin de vie sur le Haut-Diwa, on a vu que c'était compliqué. Les infirmières, elles répondent présentes, mais elles font aussi dans les mesures de ce qu'elles peuvent faire au niveau du déplacement, du temps. Les aides à domicile, ça peut être très compliqué, parce que s'il y a une heure de déplacement pour une aide à domicile, pour une heure de travail, ben c'est lourd en charge, on va dire, par rapport à ce qu'elle peut apporter comme bénéfice à la famille. Donc c'est vrai que la géographie compte aussi pour contribuer ou au moins bien contribuer à l'accompagnement des patients. C'est dommage, mais c'est la réalité. Même s'il y a le HAD, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais l'hospitalisation à domicile avec son antenne d'IOASE est en sorte de contribuer au maintien à domicile des personnes lourdement malades ou avec des soins. Mais un accompagnement peut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas qu'il y ait d'héroïsme dans un cas d'accompagnement. Une famille ne peut pas accompagner toute seule. Il faut qu'il y ait un appui médical autour, des infirmiers, des aides à domicile, parce qu'il y a toute une logistique et des soins que la famille ne peut pas assurer complètement. Elle peut faire beaucoup, mais l'épuisement est un risque. Et finalement, si la famille s'écroule, le malade se retrouve à l'hôpital et c'est dommage. Même si tous les accompagnements ne peuvent pas avoir lieu jusqu'à la fin à la maison et qu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de jugement à porter. Il y a des limites et je crois qu'il faut que les familles fassent attention de ne pas s'enfermer dans des promesses parce que sinon, elles sont extrêmement culpabilisées de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout. Mais des fois, l'état clinique ne permet pas de maintenir une promesse. C'est une réalité. Les soins palliatifs, enfin la prise en charge palliative, c'est beaucoup, beaucoup d'humilité. Et il faut rester humble parce que c'est quand même le malade qui nous conduit avec ses limites, avec ses potentiels, avec ses angoisses, avec comment la maladie le touche et comment à des moments la clinique prend le pas aussi sur tout, les angoisses et tout ça. Et il y a des moments où là, c'est extrêmement compliqué de pouvoir rester à la maison et c'est pas sécurisant. Et ça, je crois qu'on n'est pas là pour culpabiliser les familles. Ce n'est pas un échec, c'est une limite et à ce moment-là, on demande un relais. Mais la famille a encore tout à fait sa place à l'hôpital. De ce côté-là, c'est une conviction. La famille, elle est un partenaire et les soignants ne sont pas à la place des familles, sûrement pas.
Je crois que c'est très important, effectivement, cette promesse. Jamais tu ne termineras dans un service. Et pourtant, voilà, parfois,
oui.
On y est obligé. Je vous remercie de ces précisions, Marie-Claude, et on va revenir quand même sur un événement plus positif qui est donc l'anniversaire de l'unité de soins et de l'équipe mobile. 20 ans, qu'est-ce que vous pouvez en dire de cet anniversaire? Qu'est-ce qui va se passer?
Alors, ça va se passer le lundi 3 décembre, l'après-midi, à Cré, à la salle coloriage de la ville de Cré. C'est une après-midi qui va être animée avec une conférence qui est faite par le professeur Bernard-Marie Dupont. C'est un médecin qu'on connaît, qui est déjà venu à Cré faire de la formation il y a quelques années, puis des conférences dans la région. Et la conférence sera intitulée « Alimentation-nutrition au risque de la vie ». Parce que qu'on nourrisse ou qu'on ne nourrisse pas, y a quand même toujours la question de la vie qui est là. Et c'est pour parler de ces questions un peu éthiques, ce que je disais tout à l'heure, on met une alimentation artificielle, mais comment on fait après pour l'arrêter? Et quelquefois, du coup, à un moment donné, ça peut être quelque chose qui est soutenant, mais à un moment donné, ça peut être aussi peut-être de l'acharnement thérapeutique ou de l'obstination déraisonnable. Et ces questions-là, elles vont être abordées du point de vue de l'éthique, parce qu'en fait, il n'y a pas de solution donnée toute prête, sinon ça se saurait. Chaque cas est particulier et chaque situation est particulière. Et l'éthique, elle est là pour la réflexion éthique, pour essayer de trouver la moins mauvaise solution dans des situations qui sont de toute façon déjà un peu catastrophiques. Et même parfois beaucoup catastrophique. Donc la première partie de l'après-midi, ce sera la conférence avec M. Dupont. Et ensuite, il y a une table ronde avec toujours M. Dupont, le philosophe, médecin, généticien et éthicien. M. Mariton, au titre de député-maire qui a travaillé et contribué à la réflexion des états généraux de la bioéthique. M. Dobos, qui est le directeur de l'hôpital de Cré et de l'hôpital de Die, qui a un DESS, un diplôme en droit de la santé, qui peut apporter un point de vue du côté du droit. M. Cerveto, le médecin du service de soins palliatifs. On a souhaité aussi qu'il y ait un représentant de l'Église catholique, et c'est le père Stéphane Jacques Ruchon qui est prêtre et qui représente l'Église catholique au comité départemental d'éthique. Madame Blondel, la psychologue clinicienne de l'unité de soins palliatifs, et le débat sera modéré, on va dire, par madame le docteur André, qui est vacataire à l'unité, qui est aussi médecin addictologue, voilà. Et puis il y aura un échange avec le public, et ça se terminera par un apéritif mis en bouche pour fêter les 20 ans, voilà. Un stand aussi de l'association ACT en Val-de-Drôme, et cet après-midi est ouverte à tout public. Alors, par contre, ce qu'on demande, c'est que quand même il y ait une inscription préalable, puisque la salle est limitée à 250 personnes, et qu'on ne doit pas dépasser, que ce serait dommage de refuser des gens au dernier moment à la porte. Donc, c'est bien de nous contacter au secrétariat de l'équipe mobile, 04 75 25 42 98. Par mail, les mails sont indiqués sur les plaquettes, alors secrétariat.emsp@ch-cré.fr.
Excusez-moi, j'ai envie de rebondir quand même sur les professionnels qui seront présents lors de cette journée.
Oui.
Vous avez évoqué un représentant de l'Église catholique. Pourquoi seule cette Église est-elle représentée ?
Tout simplement parce qu'on n'avait peut-être pas forcément d'autres interlocuteurs, qu'on a participé à quelques réunions du comité d'éthique de Valence et que voilà, on a souhaité aussi que cette paroisse soit représentée, mais c'est ouvert à tout le monde, voilà. On n'avait pas forcément... Après, c'est aussi une question de limite de la journée. C'est vrai qu'on a fait le choix de travailler sur un après-midi. Organiser une journée complète, ça nous a paru difficile compte tenu du temps dont on disposait. Compte tenu du temps aussi qu'il était question de déménager l'hôpital de Cré sur le nouveau site une semaine avant, enfin là dans le dernier trimestre et qu'on savait pas très bien et que la charge de travail était très lourde, voilà. Donc on a fait le choix d'une personne, ce n'est pas contre les autres religions, surtout pas. Je pense même qu'on organisera quelque chose plus tard avec une représentation ou en tout cas une approche des différentes églises ou religions autour de la maladie. Ça, c'est un projet qu'on a à cœur et qui se fera. Mais là, bon, c'est la limite de la journée et voilà. Cette paroisse est représentée au comité départemental d'éthique. Bon, c'est sûrement pas parfait de n'avoir invité que ce monsieur, mais voilà, on fera mieux la prochaine fois.
Marie-Claude, je vous laisse annoncer une dernière fois, c'est à vous de parler.
Donc, l'unité de soins palliatifs fête ses 20 ans. Pour cela, on organise une manifestation ouverte à tout public le lundi 3 décembre l'après-midi à partir de 14h à la salle Coloriage à Cré. Le thème, c'est alimentation-nutrition au risque de la vie et vraiment avec une approche ouverte et éthique de ce sous-thème au sein de la maladie.
Mais je vous remercie de ces précisions, Marie-Claude.
Merci, 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 vous aussi.
Au revoir.
Interview. 1 Terre View.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
L'interview du jour.